pour cette thématique quand même assez pointue. Sachez que c'est une vraie réussite, cette troisième édition, puisque depuis lundi, nous avons eu des conférences sur des sujets très divers, des pièces de théâtre qui ont été jouées, et à chaque fois, on a joué, on a fait ces conférences à guichet fermé, donc on est vraiment ravis. C'est une vraie rencontre avec le public et merci encore de votre présence ce soir. J'en profite pour vous rappeler que la semaine n'est pas finie, qu'après cette conférence, vous avez à 17h, à 19h30 une lecture dans ce même lieu et qu'ensuite à 20h30, vous avez un concert à l'école, par l'école de musique du Grand Alès qui a lieu à l'église Saint-Joseph à 20h30. Un concert de musique militaire, tout un programme, pas loin d'ici, auquel vous pourrez assister normalement si le timing est respecté. Et puis, à partir de demain, encore des conférences et des débats dans cette même médiathèque et ailleurs. Et à partir de vendredi soir et tout le week-end, on va rentrer dans la partie plus festive alors de la semaine. Après les réjouissances culturelles, eh bien, nous aurons d'autres types de réjouissances avec un spectacle sur la place de la mairie demain soir à 19h. On va allier avec l'histoire et la mémoire. Donc, ça sera un spectacle que je vous conseille particulièrement, auquel je vous conseille particulièrement d'assister. Un spectacle vidéo laser qui sera suivi d'une dégustation d'une tartine Sevenol, une tartine géante, un moment de convivialité donc. Et puis, sachez que vous pouvez tout au long du week-end participer à toutes les animations du Fort Vauban et pour ça vous costumer, venir en famille, si ça vous dit, avec vos enfants. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer un bon moment en famille au Fort Vauban, un espace pour les enfants, une ferme aux animaux, une volière royale, un campement militaire, des échoppes, un marché artisanal, bref, des spectacles de reconstitution historique et également des défilés auxquels, si vous êtes costumé naturellement, vous pouvez participer. Donc sachez que jusqu'à demain soir et même samedi, vous pouvez encore retirer, il reste quelques costumes à retirer à l'Office du tourisme. Voilà, pour les plus courageux, mais la météo nous est promis clémente pour ce week-end. Donc, a priori, toutes les conditions sont réunies. Voilà, je remercie encore Monsieur Bois. Je vous prie d'excuser Madame Larguier qui ne va pas tarder, qui est la maire adjointe chargée de la culture sur la ville. Et je vous souhaite de passer un très bon moment avec notre conférencier. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Quelques mots de présentation de Monsieur Bois. Donc, je suis très heureux de recevoir Monsieur Bois ce soir. Double titre, d'abord parce que c'est mon ancien professeur à l'Université de Nantes. Et c'était toujours un plaisir pour nous de l'écouter parce qu'on le trouvait passionnant. Et on a eu le sentiment que c'était un puits de science. Et seconde raison, c'est que c'était un spécialiste d'histoire militaire, disciple d'André Corvisier, qui est le grand maître de l'histoire militaire en France. Et Monsieur Bois donc a consacré toute sa carrière à l'étude de l'histoire militaire, moderne en particulier, mais aussi en allant gratter un peu le terrain du 19e siècle, notamment avec une belle biographie de Bugeaud, le conquérant de l'Algérie. Voilà, donc c'est évidemment une grande joie ce soir encore de l'écouter à nouveau pour nous parler de ce sujet de la petite guerre. Monsieur Bois a enseigné à l'Université de Nantes, il a enseigné aussi à l'école militaire de Saint-Cyr, dirigé de nombreux centres de recherche. Et ce soir, donc, il va nous parler de la petite guerre, de la guerre des Cévennes, intégrée ou plus exactement reprise dans l'ensemble de l'histoire de la petite guerre, hein, on le verra, du Palatinat, mais jusqu'aux guerres qu'on appelle les guerres asymétriques aujourd'hui, comme en Afghanistan. Alors la question de la guerre, évidemment, surtout à l'époque moderne, a toujours été très forte en ce qui concerne un lien, a entretenu un lien très fort avec le protestantisme. Charles Nicolas me rappelait aujourd'hui que nous commémorons donc le massacre de Vassy et que c'est ce massacre, 1er mars 1562, qui déclenche, en général, on a coutume de dire que c'est ce massacre qui déclenche les guerres de religion en France. Donc le lien entre protestantisme et guerre est un lien évidemment très fort. J'aimerais d'ailleurs faire un jour un cycle de conférences consacré au protestantisme et aux protestants et la guerre. Ce sera une autre occasion peut-être de réécouter M. Jean-Pierre Bois. Mais ce soir, il va nous parler de la petite guerre et nous lui laissons tout de suite la parole pour 45-50 minutes de conférence, après quoi vous aurez la liberté de poser des questions.
Merci beaucoup. Oui, je remercie M. Belloir. Il vous le dit, il était mon étudiant et il s'est comporté comme un bon étudiant. Il a dit, je vais piéger le prof en me posant un sujet qui est plus difficile à aborder qu'il en a l'air. Il y a une raison mineure que j'écarte tout de suite, c'est que vous êtes tous plus cévenols que moi, si j'ose dire. Hein. Moi, je viens de l'Ouest, c'est loin. On a la Vendée là-bas, mais on n'a pas les Cévennes. Et je me suis dit, oh, mon gaillard, si tu vas leur parler de la guerre des Camisards, tu tombes dans le panneau, ils la connaissent tous mieux que toi. Et comme vous la connaissez tous mieux que moi, ben, je vais vous parler d'autre chose. Mais je parlerai quand même un peu de la guerre des Camisards, car le sujet que m'a proposé M. Belloir, c'est la petite guerre. Il s'agit d'extraire de la guerre des Camisards un peu son volet militaire. Il n'oublie pas que je suis un historien militaire. J'aime beaucoup les grands panoramas. J'ai répondu oui en me disant je vais lui parler de la petite guerre, des origines des temps jusqu'à après-demain. C'est quand même pas tout à fait ce que je vais faire. Je retomberai quand même sur la guerre des Cévennes, vous allez le voir. En réalité, ce mot, cette expression petite guerre, dans l'absolu, c'est une expression étrange. Est-ce qu'une guerre peut être petite? Dans quel sens? Est-ce qu'elle est petite en nombre de... petite en effet politique? Est-ce qu'elle est petite en objectif? Est-ce qu'elle est petite en nombre de morts? En quoi est-elle petite? Qu'est-ce qu'être petit à la guerre? Pour le gars qui fait la guerre et qui est mort, elle n'est pas vraiment petite. Elle est définitive. En réalité, il y a deux réalités qui se mélangent complètement dans l'expression. L'une est civile, l'autre est militaire. La réalité militaire est née des pratiques de la réalité civile. Les mots vont se superposer. À l'origine, ils ne sont pas les mêmes. Et moi, je vais développer les deux points de vue. L'aspect civil de la petite guerre, c'est une pratique qui a été très communément utilisée au cours d'innombrables révoltes. Ce serait presque une histoire des révoltes paysannes. Révolte paysanne parce que en milieu urbain, plutôt que révolte, on emploie le mot émeute. On parle parfois de la révolte des Camisards, on ne parle pas des émeutes des Camisards. Les émeutes, c'est pour la ville. Et ça s'achève en révolution plutôt qu'en révolte. On est en révolte. Le mot militaire, c'est le mot petite guerre qui s'est fabriqué à la lecture des événements militaires de l'une de ces révoltes qui, la première dans l'histoire des révoltes paysannes, a reçu le nom de guerre. C'est la guerre des Cévennes. Révolte des Camisards, guerre des Camisards, guerre des Cévennes. On est passé de la révolte à la guerre. Et l'on s'est aperçu, en théorisant cette guerre, qu'en réalité, elle avait déjà aussi une longue histoire, qui se sont mêlées. Et puis, après les Camisards, elle a eu un devenir. Hein, ce qui fait que les mots ont changé. En réalité, il y a beaucoup d'expressions où on employait le mot guerre, puis on l'a transformé, ou il est devenu autre chose. Je pourrais vous les citer en vrac, hein. Ça deviendrait une sorte de liste à l'après-vert. Hein. Avant qu'on parle de guerre des Cévennes, il arrivait quand même qu'on évoque les révoltes paysannes en les qualifiant de guerre, mais avec un très grand mépris. Une expression avait cours, avant qu'on parle de la guerre des Cévennes, c'était guerre de brigands. Autrement dit, on considérait les révoltés uniquement comme des brigands. Et on leur faisait subir, à juste titre, le sort qui attend tout brigand, qui est un sort pas très intéressant, je vous l'avoue. Hein. Y a eu d'autres expressions. On parlait de guerre des buissons. On parlait de guerre de rapines. Des mots qui sont chargés de mépris, vous le voyez. Hein. Puis, ces mots ont couru, après la guerre de Cévennes, pendant tout le XVIIIe siècle.
jusqu'à la guerre de Vendée, que l'on qualifie aussi parfois encore de guerre de brigands. Mais pour la Vendée, à la fin du siècle, un siècle après les Camisards, on parle vraiment de guerre. Après, le mot s'est transformé. En Espagne, en 1808, on a parlé de guérilla. De nos jours, les militaires qui font la guerre sur les théâtres de guerre où ils sont envoyés, par exemple, en Afghanistan, emploient une autre expression. C'est toujours de la petite guerre, guerre asymétrique. Si l'on reprend toutes ces expressions globalement, ensemble, et vous pourrez m'interroger dessus tout à l'heure, si vous avez du temps pour des questions, il faudra m'interrompre, hein, moi je suis toujours trop bavard. Vous pourrez développer jusqu'au phénomène actuel. Hein. En réalité, dans les révoltes paysannes, comme dans les guerres dites petites, l'élément commun, c'est que ce sont des guerres, luttes, oppositions, agitations, etc., guerres du faible au fort. Ce sont des guerres dans lesquelles les deux camps qui se combattent sont différents l'un de l'autre. Il y en a un qui est le faible et il y en a un qui est le fort. Alors, avant qu'on puisse parler de guerre dans tout ça, et pourquoi est-ce qu'on a parlé de guerre des Cévennes, là je vais y venir, on a d'abord parlé de révolte. On a d'abord parlé de révolte lorsqu'on a pu considérer que les révoltes étaient menées de manière assez méthodique pour devenir, bonjour madame, hein, pour devenir ce qu'on appelle des guerres. Les révoltes paysannes font partie de notre histoire, de l'histoire de la France. On en fait encore un peu dans les écoles et on rappelle quand même encore parfois les grandes révoltes qui ont émaillé notre histoire. La très grande révolte qui est celle que l'on peut dire la première des grandes révoltes dont on fasse mention dans notre histoire, c'est sans doute la révolte qui est appelée d'un nom de mépris, celle des Jacques, en 1358. Nous sommes au milieu du XIVe siècle, la France va mal, c'est les débuts de la guerre de Cent Ans, il vient d'y avoir la bataille de Poitiers, il y a des émeutes parisiennes qui tournent en révolution, c'est le temps de Charles Martel, la campagne du Beauvaisis au nord de Paris se soulève. Cette révolte met brusquement sur le terrain des milliers de paysans. On n'hésite pas, le roi envoie une armée, les nobles fournissent une armée, la révolte est écrasée dans le sang. Les paysans ont voulu faire la guerre. Ils ont été écrasés. On ne compte pas les morts, ils ne sont même pas dénombrables. Voilà. Chez les chevaliers, il n'y a pas eu beaucoup de morts. Des événements de ce genre, il y en a eu d'autres dans l'histoire. Il y a eu la guerre qui a eu lieu au début du luthéranisme, c'était une confusion entre la cause nationale et la cause luthérienne en Allemagne, la guerre des paysans, hein, menée par Sickingen, qui aboutit au massacre de Frankenhausen. Dans le courant du XVIe siècle, puis du XVIIe, des révoltes paysannes en France, il y en a eu d'innombrables. On reste, avec ces révoltes, dans un modèle qui est plus semblable à celui de la guerre des Cévennes. Les paysans, à l'époque des Jacques, ou à l'époque de la guerre des paysans de Souabe ou de Franconie, ont essayé de mettre en place des armées. Ce n'est plus le cas à partir du milieu du XVIe siècle. Alors ces révoltes, on les qualifie comment ? Ben, pendant très longtemps, on ne leur donne pas de nom, ce qui est plus simple. Comme, au moins, on ne dit pas d'ânerie, déjà. On ne leur donne pas de nom, alors on emploie le mot révolte, qui est un mot extrêmement vague, ou alors on les désigne par des sobriquets tirés du langage des traditions local. On parlera des pitots pour évoquer la grande révolte de 1548. On parlera, parce qu'il y en a eu d'innombrables des révoltes de ce genre, toujours avec des noms de mépris, des Gautiers. Les Gautiers en Normandie, ça vient de la ville Gontier, de la ville Gautier, hein, en 1588. Au XVIIe siècle, on parle des croquants en Périgord. Vous connaissez tous ce mot croquant. Hein. C'est un terme de mépris. Quand on dit que quelqu'un c'est un croquant, ah, c'est pas sympathique, hein. Le mot croquant employé avec mépris vient de la révolte des croquants du Périgord. On parle des vanupiés en Normandie. On parle des lustucrus en Boulonnais. On ne sait pas d'où vient le nom. Hein. Le mot n'est plus un terme de mépris. Maintenant, ça évoque d'abord une marque de pâte assez célèbre, au moins jadis. Hein. Et puis, ça évoque plutôt une variété de professeur tournesol. Hein. Mais c'est des mots qui sont tirés des traditions locales que l'on prononce avec toujours mépris, un peu avec crainte. Il est rare que ces révoltes, qui globalement sont plutôt fiscales, ou alors c'est une révolte de la misère, tout simplement, hein, que d'avoir un autre contenu, Il est rare qu'elles donnent lieu à de grands événements de type militaire. En gros, elles se déroulent toutes de la même manière, et la dernière qui se soit déroulée selon ce modèle, c'est celle qui précède la guerre des Cévennes, pour laquelle, brusquement, on parle de guerre, mais on emploie encore un terme de mépris, c'est Camisard, qu'on peut retourner en mot d'honneur, d'ailleurs, hein, Camisard. Celle qui précède, c'est la guerre des Bonnets Rouges en Bretagne, 1675-76. Elle se déroule comme se sont déroulées toutes les précédentes, une campagne plus ou moins vaste. La Bretagne, c'est plus vaste que l'Angoumois, c'est plus vaste que le Périgord. Se soulève pour une raison purement ponctuelle. Généralement, c'est pour une augmentation d'impôts. Mais l'impôt augmenté, la gabelle en 1548 ou le papier timbré en Bretagne en 1675, la raison elle-même peut varier. Ça met en branle les campagnes parce que c'est souvent dans les campagnes que la fiscalité semble la plus lourde par rapport aux revenus. Les paysans, vous l'avez remarqué si vous avez fait de l'histoire, ont toujours dit depuis Clovis qu'ils étaient malheureux et qu'ils devenaient de plus en plus malheureux. À se demander comment il est possible qu'il y en ait encore aujourd'hui qui survivent. Ils ont tellement été malheureux. Alors, ils sont malheureux. Du coup, c'est eux qui se révoltent d'abord. Sinon, en ville, ça se politise. Mais eux, ils ne se politisent pas. Ils sont contre l'impôt. Alors, réaction du pouvoir, on envoie une armée. Une armée et pas des forces de police, parce que la maréchaussée, à deux contre un millier de paysans révoltés, ça ne fait pas le poids, même si on les encadre. Alors, on envoie une armée, puis c'est ce qui se fait à l'époque. C'est l'une des fonctions de l'armée. L'armée réprime, généralement avec férocité, avec cruauté. On règle les comptes après la bataille. Il y a toujours des pendus, parfois des décapités, mais plutôt des pendus. Et une fois que l'ordre est rétabli, alors le roi fait des concessions. Il en vient toujours aux concessions, car les rois ne sont pas fous. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le plaisir des gouvernants, à quelque époque que ce soit, n'est pas de rendre le peuple malheureux. Il n'y a aucun intérêt. Le roi n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des révoltes dans son royaume. Donc il rétablit l'ordre, après quoi, eh bien, il revient sur les mesures. Et ce schéma change avec la guerre des Camisards. Le mot change. Premièrement, c'est la première fois qu'on emploie le mot « guerre ». On emploie toujours un mot d'origine locale, « camisard », c'est la camisade, combat de nuit, dont le nom vient, dit-on, mais là, vous le savez sans doute mieux que moi, de la chemise, la camisa. Et parce que la chemise distingue celui qui est en train de se battre du militaire qui, lui, est en uniforme. Et on parlera donc de guerre des Camisards. On dit parfois « guerre des Cévennes », et le mot qui est le plus employé à Paris n'est pas le mot camisard, ni Cévennes, ni guerre. C'est le mot que vous avez là en couverture d'un livre. C'est le mot les fanatiques. On dira ce sont les fanatiques parce que c'est une guerre sur fond religieux. Alors, cette guerre des Camisards, elle a ça de semblable avec les autres révoltes paysannes que, en fait, elle n'est pas organisée par un individu. C'est un peu partout dans les Cévennes, Gévaudan, Vivarais, Velay, que l'on commence à se révolter à cause d'une situation générale qui est celle qui est créée en France depuis la révocation de l'édit de Nantes et l'activité assez musclée, c'est le moins qu'on puisse dire, de certains de ceux qui sont chargés de la nouvelle éducation catholique, de tous les réformés de force, de tous les ceux qui ont... abjurés, de tous les abjurés de force qui sont convertis et redevenus catholiques. Alors, il faut les former. L'évêché d'Alès a été créé à ce moment-là pour aider le célèbre abbé Duchela, qui est le premier mort de cette guerre, puisque chez lui, au pont de Montvert, il est pris à mal par une bande, un parti, un petit groupe d'hommes. Ce n'est pas une armée qui vont le mettre à mort, lui et puis quelques autres personnes. C'est le début de cette guerre. Les Cévennes rentrent en révolte. Il n'y a pas un chef, il n'y a pas une armée des Cévennes. Il y a des chefs, ils sont plusieurs. Ce n'est pas comme à l'époque des Jacques, qui, eux, avaient un seul chef. Ces chefs n'ont jamais essayé de monter une grande opération militaire. Ils s'opposent à l'autorité du roi. Comment ? Mais d'abord, en faisant vivre leur foi religieuse. C'est l'église du désert. Ils continuent à prêcher, ils célèbrent leur culte. Ils continuent à lire la Bible comme ils ont l'habitude de la lire. Et ils n'en viennent à des coups de force que lorsque, devant cette révolte, le roi réagit comme il a l'habitude de le faire. On envoie donc une armée avec Montrevel. Et Montrevel agit comme on l'a fait dans toutes les révoltes précédentes, une répression sauvage et féroce, sauf qu'il n'arrive pas au bout du mouvement. Il n'y arrive pas parce que, vous connaissez les Cévennes mieux que moi, et vous convenez avec moi, même si je ne les connais pas aussi bien que vous, qu'il n'y a pas tellement d'espace où on puisse livrer une grande bataille en ligne, il n'y a pas tellement de villes fortifiées avec 12 murailles que l'on puisse prendre d'assaut avec des canons, il n'y a même pas tellement de chemins où l'on puisse faire déplacer les armées aisément. Résultat, l'armée royale, qui est une armée classique, elle est capable, quand elle saisit une bande de révoltés, de l'exterminer. Ça, c'est facile. Il suffit de savoir manier le sabre. Mais elle n'est pas capable d'obtenir que ces révoltés, ensemble, lui livrent une bataille. Résultat, elle est dans le pays, elle n'en bouge plus, elle est immobilisée dans le pays. Et elle finit par en bouger de moins en moins que les révoltés, eux, qui sont toujours des tout petits groupes isolés, des bandes, quand ils en saisissent quelques-uns isolés, alors là, ils ne les loupent pas. Autrement dit, il n'y a pas de possibilité de concordance, je vais réemployer le mot tout à l'heure, entre les révoltés et l'armée royale. Alors, Louis XIV l'a compris, il n'est pas fou non plus, Louis XIV, et il a changé le commandement, il envoie Villars, Villars qui était réputé, d'abord qui était populaire, premièrement. Deuxièmement, qui était réputé être très très parcimonieux, il ne châtiait pas volontiers, il ne tuait pas volontiers, Villars, il économise la vie des hommes, il sait que ça coûte cher un homme, c'est pas parce qu'il est bon, c'est parce que ça coûte très cher. Alors il économise, et Villars a eu l'intelligence de comprendre, il est sans doute le premier dans l'histoire militaire française qui l'ait compris. Que lorsqu'on a devant soi une population en révolte, à laquelle on ne peut pas livrer la guerre, ce n'est pas en exterminant qu'on réglera le problème, autrement dit, ce n'est pas à coup de canon, c'est en négociant. Et Villars, vous le savez, va réussir à prendre dans le jeu des négociations. Alors, vous le lisez positivement ou négativement, vous êtes sceptique, vous applaudissez, comme vous voulez. Ça, c'est à vous de juger, si vous voulez. Il arrive à s'entendre avec Cavalier. Alors, on peut dire, ben oui, il a fait la paix avec Cavalier. Effectivement, et c'est mieux. Je viens d'écrire un livre sur la paix, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est mieux de faire la paix que de faire la guerre. Franchement, c'était l'objectif de faire la paix. On peut dire, autre lecture, Cavalier s'est laissé acheter. On lui propose un grade de colonel dans l'armée française. C'est pas mal pour un chef de bande révoltée qui n'a aucune formation militaire. Cavalier, finalement, ira servir dans l'armée savoyarde, puis dans l'armée anglaise. La fin de la vie de Cavalier, vous savez qu'il a terminé gouverneur de Jersey. Alors, faut pas avoir du mépris en vous disant, wow, Jersey, c'est minuscule, c'est plus petit que l'île d'Oléron. Ne dites pas cela. Jersey, c'est à quelques lieues de la côte française. C'est l'Angleterre en pays avancé. C'est la proue de la perfide Albion. C'est un très bon poste. Belle carrière pour un chef de bande. Et c'est par la négociation que finalement... négociation qui est faite de concessions. Et les concessions n'étant jamais avouées, il ne faut jamais faire dire à quelqu'un qu'il fait une concession que oui, il capitule et il laissera faire. Il faut le laisser faire sans le dire. En gros, c'est cela qui a été employé dans les Cévennes. La méthode globale de Villars, c'est de dire, écoutez, vous ne direz pas que vous m'avez battu, mais moi, je vais arrêter de vous courser. Alors, statu quo, on ne dit rien et on laisse survivre, tout en continuant à peupler le pays de moines, de prêtres et de dragons. Et on ne peut pas perdre la face. Négociation. Et Villars arrête l'action militaire. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'on a été battu. Et quand on saisit le chef, un chef, et il y en a eu plusieurs, on le décapite ou on le brûle. Ça a été terrible. Il y a eu une répression, mais très ponctuelle, très épisodique en réalité. Alors, l'intérêt pour le sujet que m'avait proposé M. Belloir, c'est de passer de ce discours cévenol, et un peu religieux, mais je ne développe pas l'aspect religieux, aux fêtes militaires. Villars, il n'est pas le seul à observer la guerre des Cévennes en homme de guerre. Villars, c'est son métier, la guerre. Il sait la faire. Il a terminé au grade de maréchal général. C'est mieux que cavalier. Hein. Ben, ils sont morts à peu près en même temps, d'ailleurs. Hein. Bon, il est homme de guerre et il a compris qu'en réalité, les Cévenols, les bandes, alors de cavaliers et les autres, hein, Roland et autres, hein, menaient la guerre d'une manière très efficace qui n'était pas la guerre que pratiquait l'armée. Une guerre qui donc n'était pas la grande guerre. Alors comment l'appeler ? Ben, on l'appelle petite guerre. Et au XVIIIe siècle, toute une génération d'officiers, pas uniquement français, il y a des étrangers également, il y a des Allemands, il y a des Suisses, il y a des Hongrois, mais beaucoup de Français, vont, dans leurs études théoriques sur l'art de la guerre, inclure des chapitres, et l'un d'entre eux va mettre ces chapitres en application, hein. Généralement, c'est le chapitre dernier de tous les traités sur la guerre, hein, sur l'art de la petite guerre. Ils ne partent pas tout à fait de zéro. L'idée d'étudier l'art de la guerre dans la guerre Cévenole, hein, s'appuie aussi sur des réalités militaires plus anciennes. L'expression « petite guerre » n'est pas née au XVIIIe siècle. On l'a employée pour la première fois, au moins autant que je le sache, à l'occasion des guerres du duc de Mercœur en Bretagne, entre 1589 et 99. Le duc de Mercœur, qui n'avait pas d'armée assez forte à opposer aux armées royales, hein, pratiquait une guerre que l'on appelait déjà « petite guerre », qui, au fond, est la même guerre que pratiquait du Guesclin au XIVe siècle, à l'époque du roi Charles V. Hein. C'est-à-dire une guerre qui n'emploie pas de grands moyens, mais des petits moyens. Petite guerre. Une guerre qui n'est pas faite par de grands officiers, mais par des petits officiers. Une guerre de capitaines. Ce n'est pas une guerre de généraux, la petite guerre. Cette guerre qui est faite en petit par des gens petits, elle a des règles. Et ces règles sont théorisées au XVIIIe siècle. On forme des éléments de l'armée à la pratique de cette guerre. Des troupes qui ne seront pas les grandes troupes. Parce que les grandes troupes, les régiments de cavalerie ou d'infanterie qui sont dans l'ordre du tableau, hein, eh bien, eux, ils font la grande guerre. Alors, on crée des troupes supplémentaires. Et si possible, avec des soldats étrangers plutôt que français. Le premier modèle, ça va être les régiments chez nous, de cavalerie légère, les hussards à la hongroise, commandés par des Hongrois, dans des régiments dont la langue est généralement hongroise. Les hussards de Bercheny, par exemple. Hein. Il y a eu d'autres régiments. Il y a des troupes légères comme ça qu'on appellera des troupes franches, qu'on appellera des troupes de partisans. On ne parle pas de parti, on dira volontiers guerre de parti, mais on parle de partisans, qui commencent à se développer dans l'armée et qui apprennent cette guerre dite petite qu'un officier français, Maurice de Saxe, pratique au milieu du siècle en grand pendant les opérations de la guerre de succession d'Autriche. Si vous étudiez la guerre de succession d'Autriche, vous verrez qu'elle a, comme toute grande guerre, une bataille par an. Mais que Maurice de Saxe, en 1746, sans livrer bataille, fait la conquête du Brabant. Et on cherche à quelle bataille il a conquis le Brabant. Non, Maurice de Saxe a pratiqué la guerre de cavalier, devenue petite guerre intégrée aux pratiques de l'armée, hein, pour, sans livrer bataille, en employant uniquement des petits moyens, hein, pour arriver à vaincre une armée qui, elle, fait la grande guerre, donc qui cherche bataille. Alors, je vais en venir à l'opposition entre grande guerre et petite guerre. Mais auparavant, il faut quand même aller jusqu'au bout du discours historique. Parce que les deux modèles, le modèle civil, on va dire révolte ou guerre des camisards, et le modèle militaire, on va dire petite guerre, pratiquée au milieu du XVIIIe siècle par des troupes spécialisées et qui portent des noms spécialisés. Hein, les hussards de Beausobre, les arquebusiers de Grassin, les croates de l'étang, etc. Bon, ces deux éléments se sont mélangés dans d'autres événements historiques qui ont donné, en fonction des époques, d'autres visages à la petite guerre et qui arrivent jusqu'à la guerre d'aujourd'hui. La guerre de Vendée, qui n'est pas mon sujet aujourd'hui, c'est une petite guerre. Les Vendéens, chaque fois qu'ils ont réuni une armée, ont été écrasés. Mais ils ont été si nombreux à faire la guerre que même quand les armées sont écrasées, par exemple à Savenay, décembre 1993, hein, il reste des Vendéens pour faire la guerre. Elle continue sous forme de petite guerre. En Espagne, 20 ans plus tard, lorsque les Français envahissent l'Espagne, les Espagnols, spontanément, récupèrent les pratiques de la petite guerre, guerre du faible contre le fort. Le fort, c'est l'armée impériale qui envahit l'Espagne. Le faible, c'est le peuple espagnol qui se soulève. Et vous savez que Napoléon n'a jamais vaincu l'Espagne. Il a été vainqueur en ligne, il a été battu en ligne, capitulation de Dupont, mais il n'a jamais fait cesser la guerre, il n'a pas remporté cette bataille. Après, il y a eu la chute de l'Empire, la question a été réglée. Ensuite, au XIXe siècle, dans d'autres lieux de l'Europe, on a eu des événements très comparables qu'on étudie peu en France. La guerre de Naples, quand l'unité italienne s'est faite, tout le sud de l'Italie est rentré en guerre contre l'Italie du Nord. Une petite guerre qui a donné en gros naissance à la mafia, qui existe toujours, vous savez bien, très active, très puissante, pas uniquement dans Naples. Au XXe siècle, ce genre de guerre a encore dérivé, s'adaptant aux événements, se transformant en fonction de ce que l'histoire est devenue, en passant de l'échelle européenne à l'échelle mondiale. Ce sont devenus les guerres de libération, les guerres de révolution. C'est devenu la guerre actuelle pour nous, dans cette fin du XXe ou début du XXIe siècle. Les guerres que nous connaissons nous maintenant, sur lesquelles réfléchissent nos stratèges, ils ne les appellent pas petites guerres. Le mot n'a plus cours, l'expression a disparu maintenant. Ils emploient d'autres expressions, guerre asymétrique, guerre dissymétrique. Je ne sais pas quelle nuance il y a entre les deux mots. Oui. C'est la même chose en Afghanistan, c'est une guerre du fort contre le faible. C'est la même guerre, sauf que le fond de la masse en révolte, si vous voulez, n'est pas le même. C'est la même guerre, pratiquement, que celle que menait Cavalier. Alors, qu'est-ce qu'elle est du point de vue militaire? C'est là-dessus que réfléchissent actuellement nos hommes de guerre, et ils réfléchissent avec beaucoup d'inquiétude. Le point de départ est le suivant. Premièrement, pourquoi fait-on la guerre? C'est uniquement pour faire la paix. C'est le début de mon bouquin. On ne fait pas la guerre pour le plaisir de la guerre. Elle n'apporte aucun plaisir à personne. Elle peut apporter du but, la guerre, mais pour le reste. On cherche à établir une situation de paix différente de la situation antérieure. Comment fait-on la guerre? Une des règles de l'histoire, et elle est étrange cette règle, elle connaît très peu d'exceptions, c'est que quand on fait la guerre, un camp contre un autre, un pays contre un autre, une alliance de pays contre une autre, il y a concordance dans les moyens, les objectifs, les règles de la guerre. La guerre se fait d'un camp à l'autre avec des armées comparables en effectifs, avec des armes comparables en technique. Le camp qui cherche à être le plus fort, il a 10 ans d'avance sur l'autre, guerre plus. Au XVIe siècle, les armées ont entre 10 000 et 20 000 hommes. Toutes les armées de tous les pays d'Europe. L'armée de Henri IV, c'est 10 000 hommes. L'armée impériale à l'époque de Henri IV, c'est 10 000 hommes. À l'époque de Louis XIV, un siècle après, les armées sont passées à 50 à 80 000 hommes. Toutes les armées ont 50 à 80 000 hommes. Effectif impensable à l'époque de Henri IV. Et puis de nos jours, c'est l'armée française, tout compris, ne tiendrait pas dans un stade, ou remplirait à peine le stade de France. C'est pareil pour tous les pays d'Europe. C'est partout pareil. Les armées, il y a une échelle. Les armes sont les mêmes d'un camp à l'autre. Le fusil, arquebuse, mousquet, fusil, apparaît en même temps dans toutes les armées d'Europe et remplace en même temps dans toutes les armées d'Europe l'arbalète ou l'arc. Et puis l'épée qui devient secondaire. Les canons apparaissent partout en même temps. L'art des fortifications se développe partout en même temps. Les règles de la guerre sont partout les mêmes en même temps. À l'époque de Louis XIV, elle est très académique. Il y a des règles pour prendre une ville. Ce sont les mêmes dans un camp et dans un autre. On est d'accord sur la guerre que l'on fait. Il est rarissime dans l'histoire qu'il n'y ait pas concordance dans les outils, les règles et les moyens de la guerre entre un camp et un autre. Le grand exemple historique qu'on a, c'est les guerres qui ont été menées par les Occidentaux, Espagnols, Anglais, Français, en Amérique. Alors là, quand les Espagnols sont arrivés chez les Aztèques, ou les Toltèques, ou les Mayas, Là, il y a discordance. Il n'y a pas les mêmes armes. Mais il n'y a pas eu de petite guerre. On a eu un type de guerre et puis un autre type de guerre quasiment néolithique. Alors évidemment, le XVIe siècle contre le néolithique disparaît. Quand on fait la conquête de l'Ouest au XIXe siècle, tous ces Français, Allemands, Anglais devenus Américains trouvent devant eux des peuples qui sont encore des peuples qui, du point de vue de la guerre, sont en gros au niveau de la flèche. Les Iroquois, ce n'est quand même pas des Anglais. Mais les Iroquois, je les cite, c'est les seuls qui, à l'invasion européenne, ont opposé une autre petite guerre, qui est la même que celle de cavaliers. Sauf que les armes ne sont pas les mêmes. Les Iroquois, leur arme, l'arme rêvée de l'Iroquois dans la guerre, c'est le cri. Les Anglais n'étaient pas habitués à la voix iroquoise, et les Iroquois, après le silence, surgissaient des bois, ils se mettaient à hurler, les Anglais étaient glacés de peur. Alors, ils n'avaient même plus la force de tirer au fusil, et du coup, ils étaient exterminés. Alors, en dehors de ces quatre discordances, il y a concordance. Or, dans la petite guerre, c'est la discordance qui est la règle. La discordance, du point de vue, d'abord, de l'effectif mis en masse, ou de la manière dont on le met en œuvre. Une armée contre une ou des populations, contre des paysans. Un militaire contre un ou des civils. Un militaire, il a une technique, une discipline, des règles. Le civil, il n'en a pas. Éventuellement, la seule chose qu'il partage en commun, c'est le courage. Mais des règles, il n'en a pas. Le militaire, l'armée réglée, c'est l'expression qu'on emploie au XVIIIe siècle, c'est vrai de nos jours, elle obéit, l'armée réglée, à des règles juridiques. Il y a des lois de la guerre qu'on applique. Il y a des manières de traiter les blessés, de les capturer. Bon, les paysans, les révoltés n'ont pas ces règles de guerre. Il n'y a pas concordance non plus dans les armes. Et c'est là-dessus qu'on caractérise le plus facilement la guerre du faible au fort. C'est dans l'arme. Au XVIIIe siècle, on a peut-être du mal de nos jours à comprendre qu'il y a discordance entre le fusil modèle Vauban de 1697 avec la baïonnette et la carabine qu'éventuellement utilisera un révolté Cévenol, ou entre l'épée et la pique maniée par un homme de guerre qui a appris à la manier et la fourche ou la faux qui est maniée par un Vendéen en 1793. Pourtant, il y a discordance, il n'y a pas égalité des armes. De nos jours, cette discordance est encore plus accusée. Quand on voit dans les guerres asymétriques qui sont menées actuellement ici, là ou ailleurs dans le monde, quand on voit que les révoltés, ils ont quoi comme arme? Le téléphone portable avec lequel ils font éclater une bombe. Et puis nous, on arrive avec d'une part la bombe atomique, d'autre part des drones qui sont des objets prodigieux du point de vue électronique avec lesquels on ne gagne pas la guerre. Le combattant d'une armée actuellement réglée, il n'a jamais devant lui un adversaire avec lequel il combat à armes égales. L'un est sous-équipé, l'autre est suréquipé. Et curieusement, c'est le sous-équipé qui est dans la meilleure position. Ça, on s'en aperçoit après coup. Car le suréquipé, souvent, ne peut pas utiliser ses armes et n'a pas la capacité morale ou juridique ou technique d'utiliser les armes de l'adversaire. Je peux prendre l'exemple aujourd'hui en Afghanistan ou dans les Cévennes en 1703 ou en Vendée en 1794. Alors, la répression en Vendée, ça a été autre chose. Le révolté ne livre pas bataille. Il n'y a pas de bataille. Il ne la livre pas parce qu'il la perdrait. Donc, il se livre à quoi? À des petits coups. L'arme, la tactique du révolté repose sur quoi? En gros, il y a quatre éléments militaires, devant lesquels c'est lui qui est le plus fort par rapport à celui qu'il a devant lui, qui est surarmé et suréquipé. Premièrement, le renseignement. Le livre blanc de 2008 en France a mis à l'ordre du jour le renseignement. Bon, ça fait même tout un chapitre, je crois me rappeler. Le renseignement, parce que le villageois, il voit ce qui se passe, il voit l'armée qui passe, il est dans sa maison, il passe devant chez lui, il entend, il sait qu'ils sont là, et il fait passer l'info. Il l'a fait passer par les messages classiques de communication de la campagne. Dans d'autres lieux, ça s'appelle le téléphone arable. Mais on peut appeler ça le téléphone Cévenol. Ça marche pareil. Hein. En Vendée, c'était les moulins. Hein. Et ça transmet l'information. Les révoltés savent tout de celui qui les envahit. Ils savent où il est, combien ils sont. S'ils sont 3 ou 300 ou 3000. Et le révolté, il n'est pas fou. S'ils sont 3, tac, on réunit une bande de 30 gars et on va les capturer, puis éventuellement les massacrer. Hein, parce qu'on fait peu de prisonniers dans ce genre de guerre. Hein. Tandis que l'armée, elle, elle n'a pas la connaissance du pays. Parfois, elle n'a pas la langue du pays. Je ne suis pas assez fort, excusez-moi, je ne veux pas vous choquer. Je ne sais pas si dans les campagnes Cévenol, on parle une langue, un patois, un langage, un dialecte. Je vais dire on parle Cévenol. Hein, voilà, c'est plus simple. Ce que je sais, c'est que le soldat de Villars, lui, ben, il parle picard ou allemand. Et ça, ce n'est pas le Cévenol. Hein. Et du coup, il ne comprend pas ce qui se passe. Et quand il interroge le paysan, pour le paysan, il répond, moi, je ne comprends pas. Et tout, je ne comprends pas. Je ne peux pas répondre. Il manque d'informations. Il lui manque la connaissance du pays, les routes, les chemins. Il ne sait pas où il y a de l'eau. Il ne sait pas où ça monte. Il ne sait pas où mène la côte. Il a peur de la nuit. Pourquoi est-ce que les Cévenols se battent la nuit? Moi, je vais vous le dire. On ne le dit pas dans les bouquins, ça. Et on a tort. C'est parce que la nuit, il fait noir. À cette époque, hein. De nos jours, c'est fini. Il y a tant de lumière partout, vous savez, que où qu'on soit, d'abord, il y a un téléphone portable qui sonne. Pas à cette époque. La nuit, il fait noir et on entend des tas de bruits nouveaux qu'on n'entend pas le jour et que le Cévenol connaît parce que c'est la chouette, parce que c'est la loutre, parce que c'est le blaireau, je ne sais pas moi, ou c'est la fourmi qui passe. Hein. C'est des trucs que les Cévenols connaissent. Mais le Picard ou l'Allemand de l'armée de Villars, non. Et lui, il a peur du cri la nuit qui résonne dans une nuit vraiment noire où on ne voit pas à 3 mètres. Hein. C'est ça, les armes. Et là, ben, évidemment, il y a une inégalité majeure. Alors, le renseignement, premier élément. Deuxièmement, dans la pratique de la guerre, le révolté n'attaque jamais une armée. Mais c'est normal. Quand on est 30, on est fou si on attaque une armée de 3000 hommes. On est fou, on est exterminé. Hein. Même quand on est très courageux. Donc, il y a deux opérations qu'ils font. C'est après le renseignement, c'est les deux autres éléments de la petite guerre, puis il y en a un quatrième ensuite. Premièrement, la surprise. Deuxièmement, l'embuscade. Militairement, la surprise, c'est contre un poste fixe. Un camp que l'on va envelopper, entourer, et brusquement, la nuit si possible, submerger. Alors, on massacre tout le monde, on pille un peu le camp, ça peut servir, et puis on s'en va. L'embuscade, c'est l'attaque contre une troupe en déplacement, une troupe en marche. On la guide par des informations fausses ou parce qu'elle se perd seulement parce qu'elle ne connaît pas le pays, dans des petits chemins, dans des petits sentiers, dans des cul-de-sac. Et hop, là, on lui tombe dessus alors qu'elle est en plein mouvement. C'est-à-dire qu'on la prend au repos ou qu'on la prend en déplacement. On ne la prend jamais à l'arrêt sur ses positions de bataille. Ça n'existe pas. Dans les deux cas, surprise ou embuscade. Et puis, la dernière tactique, on va dire pratique tactique, de la petite guerre, c'est l'épuisement de l'adversaire par le harcèlement. Jamais de bataille, mais jamais de repos. Autrement dit, on crée l'insécurité. Élément majeur et toujours victorieux de la petite guerre. Jamais de repos, le harcèlement, c'est un gars isolé, on le prend. On enlève un fourrage. On va tuer quelques éléments de bétail, là où l'armée allait faire du ravitaillement. Hein. On surprend une petite troupe, et puis on se sauve, et on disparaît. Et quand l'armée arrive, bah pour faire rendre gorge à ceux qui ont enlevé un petit détachement, il n'y a plus personne. Il y a quelques paysans qui sont en train de faucher l'herbe. Voilà. Qu'on ne peut quand même pas massacrer, alors Montrevel s'en prive pas. De même que les Républicains en Vendée massacrent les Vendéens. Hein. Mais ce sont les cas limites. qui, de toute façon, n'aboutissent pas non plus à la victoire. Il n'y a jamais bataille. Alors, on attaque comme ça et on épuise l'armée en lui supprimant, premièrement, sa sécurité. Le harcèlement fait qu'on est dans l'insécurité. Deuxièmement, la seule véritable force des armées, son moral. On attaque l'armée par le moral. C'est pourquoi, quand on prend un isolé, ben, faut le tuer. Puis, si possible, le tuer d'une manière pas sympathique, pour qu'on soit sûr que les autres, quand ils trouvent le cadavre, comprennent ce qui les attend. Et puis, ben, quand on est le soldat de ligne de tel ou tel régiment, on n'a pas vraiment signé un engagement militaire pour finir comme ça, hein, coupé en mille morceaux par des cévenoles. Alors, évidemment, du coup, quand on en tient, on a tendance à se venger. Toujours, c'est très cruel comme type de guerre. C'est très féroce, plus exactement. Mais finalement, on finit par ne plus oser sortir. Et on est bloqué. Montrevel est bloqué. Au bout de 3 ans, ses armées ne sortent plus. Comme les armées françaises en Espagne, après 3 ans de guérilla, elles s'enferment dans les villes. Et puis, il y en a quelques-uns qui sortent encore. Et généralement, ça se finit mal. Comme de nos jours en Afghanistan, hein, le problème de la guerre, c'est qu'il n'y a pas de bataille. Vous remarquez que quand on a des morts, c'est malheureux parce que c'est vraiment des morts à la guerre. Mais ils sont morts dans des tout petits coups. Ils ne sont pas morts à Verdun, les gars qui sont morts maintenant. Hein. Alors ça pose un problème, même de réception par l'opinion. En plus, de nos jours, il y a une arme qui existe moins à l'époque que Cévenol, il faut l'avouer, c'est l'arme médiatique. Hein. Bon. On joue sur les médias, l'instantanéité de l'événement, nous l'évoquions tout à l'heure, hein, qui change quand même aussi la perception des événements. À cette époque, ça joue beaucoup moins cela. Hein, le média, c'est-à-dire l'impact sur la population civile qui va prendre parti contre l'horreur, hein, c'est de notre époque. Ça a commencé à exister de manière déjà un peu modérée à l'époque de la Vendée. Ça existe très peu à l'époque Cévenol. Hein. Parce que les événements, l'information ne circule pas assez vite de toute façon. Résultat, la question qu'on se pose à l'époque de Villars, comme aujourd'hui à l'époque de Pétréus, hein, c'est comment achever cette guerre sans la perdre. On ne la gagnera pas. Il faudrait qu'on réfléchisse avant d'y entrer. Hein. Quand on y entre, il faudrait savoir qu'on ne la gagnera pas. Donc, au moment même où on l'engage, qu'on réfléchisse sur les moyens d'en sortir. Alors, moi, je ne suis pas stratège, ça m'est facile à dire. Hein. On pourra dire que c'est aussi ce que font les officiers de la Grande Guerre dans toutes les guerres de l'époque moderne, 16e, 17e, 18e siècle. Les négociations de paix commencent en même temps qu'on commence la guerre et se poursuivent pendant tout le temps qu'on fait la guerre. Avec des décalages de temps dans l'information entre les événements, ce qui se dit entre les diplomates et ce qui se fait sur le terrain, puis les ordres politiques. Il y a toujours une sorte de décalage dans le temps qui vient simplement des réalités techniques de l'époque. Le problème maintenant, c'est comment en sortir, et c'est là-dessus que réfléchissent nos stratèges actuellement. Hein. Le thème qui est à la mode chez les historiens, c'est plus le thème, les historiens militaires, c'est plus le thème de la guerre, c'est le thème de la sortie de guerre. Comment en sortir? En faisant la paix. Évidemment, la paix, c'est l'absence de guerre. On dira la paix, mais le mot paix, il est polymorphe. Hein. Comment est-ce qu'on va faire la paix? Je n'ai pas de réponse. Moi, je ne suis pas militaire. Je ne suis même pas officier de réserve. Je ne suis rien du tout. Donc, je peux dire comment faire la guerre. Faire la paix, je réfléchis dessus, mais c'est beaucoup plus difficile, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est plus compliqué parce que le mot, il a un sens qui est vraiment à géométrie très, très variable. Hein. Moi, je suis convaincu que la bonne méthode, c'est celle de Villars en 1705. Ça a été celle de Hoche après 1795. Hein. Ça n'a jamais été celle de Napoléon en Espagne. La guerre n'a jamais cessé. Hein. Là, pour faire la paix, la méthode, c'est le dialogue. C'est la discussion. C'est la conversation. Mais dans la conversation, pèse toujours le poids de tout ce qu'il y a eu avant. Alors, la conversation, elle est plus ou moins facile en fonction de la guerre qu'on a conduite. C'est pourquoi Louis XIV, ayant compris qu'il fallait négocier, avait premièrement intérêt à virer Montrevel. Hein. Ce n'était pas possible de discuter avec lui. Après, il y avait trop de morts, trop de sang. Villard, il arrive. Premièrement, il arrive en disant « moi, je discute ». C'est un autre. Donc, il ne paye pas le poids des fautes de Montrevel. Il peut repartir à zéro. Mais les peuples ont de la mémoire, les événements ont de la mémoire. Internet a de la mémoire, vous savez. Hein. Et c'est difficile maintenant. Ce n'est pas en changeant le bonhomme qu'on va changer la réalité. Hein. Alors, c'est actuellement sortir de guerre. C'est évidemment sans doute beaucoup plus difficile que ça l'était à l'époque de la guerre Cévenole. Hein. Donc, ben, moi, je m'arrête là. Comme ça, je laisse le temps à des discussions, si vous voulez. Je peux développer sur différentes guerres. Hein. J'ai d'autres exemples historiques, là. Hein. Je n'en ai pas développé vraiment parce que ce n'était pas mon sujet. Je suis resté aux pratiques de l'art de la guerre. Hein. Et la théorisation de l'art de la guerre, la question que je poserai, moi, en conclusion, elle est très différente. Elle est un peu hors sujet, mais ce n'est pas grave, je la pose quand même. Ce qui me frappe, aussi bien dans les histoires de militaires que je fais, que dans le discours public commun, etc. Au moins en France, un peu en Europe, mais plus en France sans doute qu'en Europe, et beaucoup plus en France qu'aux États-Unis, c'est que quand on parle de guerre qui se présente comme cela discordante, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de la guerre des Cévenoles contre Louis XIV, j'emploie le mot guerre, qu'il s'agisse de la guerre des Vendéens contre la République, de la guerre des Espagnols contre Napoléon, de la guerre des Indochinois, j'ai un livre dans mon cartable qui en parle, en 1954, hein, avant Dien Bien Phu, contre les Français, à l'époque des légionnaires, des gens de métier qu'on n'a pas vu en France. Que ce soit aujourd'hui des guerres qui se déroulent en Afghanistan ou ailleurs, contre des forces de l'ONU plus ou moins qualifiées ou qualifiables, nous avons tendance, a priori, à avoir de la sympathie pour le petit contre le fort. Les Français, c'est vraiment les rois des poulidoristes. Nous avons toujours aimé le petit contre le fort, le David contre le Goliath, Poulidor contre Anquetil, c'est ma génération, je le sais, c'est pas la vôtre. Hein. Là, ils étaient plus dans la course, hein, si, encore, ah, de justesse. Hein. Mais moi, j'ai vécu ça en plein. Et comme tous les Français, j'étais poulidoriste. Mais pour quelle raison valable ? Mais figurez-vous, je me le demande. Hein. Pourquoi serait-il établi comme une sorte de vérité permanente que la vérité, le droit, la justice est toujours du côté du plus faible ? Alors, ben, vous réfléchissez là-dessus. Je ne dis pas qu'elle n'y est jamais. Hein. Je ne dis pas ça. Mais je dis, après tout, il n'y a pas de raison pour qu'elle y soit toujours. Ouais, c'est peut-être une manière de lancer un débat qui n'est pas forcément le débat du jour. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Ben, j'attends vos questions si vous en avez. Je peux développer sur beaucoup des sujets que j'ai à parcourir. Hein.
Monsieur Bois, oui, pour cette belle conférence, belle rétrospective de l'art de la petite guerre. Maintenant, je pense qu'il y aurait une autre conférence à faire sur l'art de la paix. Je pense en tout cas qu'elle a certainement suscité des questions, donc c'est à vous que je laisse la parole.
Oui, bonsoir. Je voudrais quand même repartir un peu à la charge, si je puis dire, et me poser la question, enfin vous poser la question, comment se fait-il qu'après le Vietnam, après les nombreuses petites guerres que nous avons eues depuis bien longtemps, tous les pays européens, ça ne nous ait pas servi de leçon, d'accord, vous avez dit que vous n'étiez pas militaire, mais enfin vous avez réfléchi à la stratégie militaire. Et forcément, vous avez eu des contacts, vous avez, etc. Comment se fait-il qu'on soit aveugle à ce point? Et que, enfin, depuis des temps immémoriaux, on n'arrête pas de battre en retraite. Et ça continue, actuellement, aujourd'hui, depuis le milieu depuis les années 50, excusez-moi.
Oui, je vais répondre deux fois à votre question. Je vais dire qu'il y avait deux questions dans votre question, vous me le permettez. Hein. La première, elle est assez générale, peut-être particulière à l'histoire de la France, je ne sais pas, mais La seconde, elle est beaucoup plus vaste que ça. Hein. Cette espèce de proverbe réel, hélas, que la France a toujours préparé la guerre d'avant et non pas celle d'après. Et finalement, depuis un siècle, on perd nos guerres. Hein, on les gagne après les avoir perdues et on les gagne grâce aux Américains. On n'aime pas le dire. À quoi ça tient, cette espèce de retard entre la pensée stratégique et la réalité des faits? Moi, je crois vraiment, je ne sais pas ce que vaut ma réponse, je m'excuse si elle ne vous convient pas, hein. Je parle toujours pour la France, hein. Je crois vraiment, et nous sommes en plein, en ce moment, là, aujourd'hui, 2012, dans cet événement, c'est qu'il est très difficile, et nous, particulièrement, pour nous, ça semble très difficile, de vivre la paix. Et nous n'avons jamais compris, nous, que pendant la paix, il faut se donner les moyens de la guerre. Mais je reviendrai sur cette formule après si vous voulez. En réalité, dès que nous sommes en paix, nous nous démobilisons de la guerre et nous ne sommes plus capables de l'appréhender. Je prends un exemple actuel. Je ne veux pas rentrer dans un débat politique français, surtout pas. Hein, ce n'est pas mon intention. Mais quand on voit, je le disais tout à l'heure, ce qu'est devenue l'armée française aujourd'hui, glorieuse et vaillante et courageuse et peuplée de gens très bien. Hein. Mais ça, j'en suis convaincu. Mais à quoi elle est réduite matériellement? Par nous. Parce que je ne vais pas dire par les politiques. Les politiques, c'est nous qui les avons élus. Hein. C'est là, par la République. On démilitarise la France. Alors, quand la prochaine guerre va nous tomber dessus, ben, premièrement, on va trinquer. Puis ensuite, on se relèvera, car nous sommes Français. Le coq est toujours vaillant chez nous. Hein. Mais il va d'abord se faire déplumer. Une fois de plus. Alors, on a eu cette espèce de réflexe permanent. Dans l'époque actuelle, c'est la deuxième réponse. Elle est, et je ne comprends pas pourquoi. Hein. Je dis, ben, la paix, on n'a jamais voulu. Pendant la paix, nous, on ne veut pas financer la guerre. En gros, c'est ça. Bon, la deuxième réponse, elle est très différente. L'ensemble de nos cultures, je ne sais pas quel mot employer, parce que maintenant, on se fait tellement allumer sur les mots qu'on emploie que... j'ai peur d'engager des polémiques. Si je dis nos civilisations, je vais me faire traiter de je ne sais pas quoi. Si, bon, alors, j'emploie le mot culture. L'ensemble de nos cultures, en Europe occidentale, et tous les peuples qui sont de culture de l'Europe occidentale, ont subi au XXe siècle un traumatisme dont ils ne se sont pas relevés. C'est celui des deux guerres mondiales. Parce que la guerre a atteint, dans ces deux épisodes, qui en gros, on va dire, n'en font qu'un, 14-45, a atteint une telle dimension d'inhumanité que nous ne sommes plus capables d'en affronter la moindre réalité. Et désormais, je ne dirais pas nous sommes pacifistes, j'aime pas le mot parce que j'y crois pas, mais nous ne sommes plus capables d'envisager la guerre simplement comme réalité, au point que nous construisons le mythe d'une guerre zéro mort. Bon, si quand on fait la guerre, guerre zéro mort, c'est zéro mort chez soi et pas chez l'autre d'ailleurs, hein, c'est que c'est paradoxal. Alors, on paye dans notre inadaptation actuelle au fait de la guerre, on paye, je crois, ce choc dont, en gros, nous subirons le contre-coup encore, à mon avis, pendant deux, trois générations, peut-être quatre. Puis le temps passera. Et quand le XXe siècle sera rentré dans les tiroirs de l'histoire, comme pour nous l'époque de Louis XIV, alors à ce moment-là, peut-être, les mentalités commenceront-elles à se retransformer. Je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Hein. J'analyse l'événement comme ça. Alors, de ce fait, actuellement, ben, on est incapable de réagir de manière à se préparer à gagner nos guerres. Est-ce qu'on le veut seulement? Je me le demande même. Je me le demande même. C'est comme ça, donc je réponds, vous voyez, d'une manière un petit peu ponctuelle pour la France, c'est d'une manière un petit peu large, en essayant de parler en termes de culture, de civilisation ou d'Europe, je ne sais pas comment dire, hein, à votre question, vous voyez. En revanche, la réponse que je ne donnerai pas, pardonnez-moi de vous la donner quand même en vous disant, ce n'est pas ça la réponse, c'est de dire, ils sont idiots, ils n'ont rien compris. Hein. Nos militaires, nos politiques ne sont pas des idiots, loin de là. Hein. Mais ils sont des gens de notre génération. Alors ça, oui, ils n'y échappent pas. Et ils ont la même... Nos politiques, nos militaires, nos officiers, nos penseurs, nos stratèges ont eux aussi, je vais dire dans leur patrimoine, je ne vais pas dire génétique, mais culturel, le choc des deux guerres mondiales. Tous l'ont. Alors, ce n'est pas par stupidité congénitale que ils sont incapables de répondre. C'est parce que nous avons cette sorte de révolte maintenant contre la guerre qui fait qu'on n'est plus capable même de l'intégrer dans nos discours. Ça ne veut pas dire que les autres civilisations, je risque le mot qui nous entoure, elles, aient la même démarche que nous. Ça faut pas, sont pas forcément parallèles.
Alors, je m'interroge sur l'élément religieux ou fanatique. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un facteur aggravant? Et parce que là, on compare un peu Camisard et puis, Afghanistan. Est-ce que le fanatisme, c'est le même? Et puis, j'aurais une autre question sur la guerre d'Algérie, mais je ne sais pas si...
Sur la guerre d'Algérie, je ne répondrai pas forcément.
Parce qu'apparemment, sur la guerre d'Algérie, militairement, on avait réussi peut-être à... L'armée française avait réussi à prendre le dessus.
Mais pas peut-être, sûrement. On l'a gagné, la guerre d'Algérie. Bien sûr, on l'a gagné. Mais on l'a perdu politiquement à 100%.
Ouais.
Ça, on l'a perdu
ça
politiquement.
C'est une petite guerre qui, finalement, aurait pu...
C'est le seul exemple. Elle est très difficile à analyser parce que c'est le seul exemple qu'on puisse vraiment citer, qui répondrait aussi à votre question, monsieur, un peu en partie, vous voyez. C'est le seul exemple où une sorte de guerre qui s'apparente aux méthodes de la petite guerre a été battue sur le terrain. Oui. Mais tellement perdue politiquement que c'est d'autres analyses qui permettraient de l'aborder. Puis elle a eu ses suites et tout. C'est un sujet qui, pour nous Français, reste quand même assez, on va dire, particulier, désagréable peut-être. Non, pour votre première question, j'attends de rappeler-la moi.
Alors, c'est l'élément religieux. L'élément religieux. Est-ce que c'est aggravant? Est-ce que le fanatisme protestant est comparable au fanatisme musulman en Afghanistan, par exemple?
Écoutez, moi déjà, j'aime pas le mot fanatique. Vous m'excusez, mais je ne l'aime pas. Je l'ai employé. Louis XIV l'a employé. Il parlait des Cévenols, c'est lui qui le disait. Bon, c'est pas par hasard que le mot est sur un bouquin là. Il n'a pas inventé, l'historien. Je ne sais pas qui c'est, mais il n'a pas inventé. En réalité, l'élément religieux est l'une des composantes de la personne qui est en révolte. Elle a toujours d'autres composantes. L'élément matériel, premièrement, la faim, la misère, la pauvreté, la culture. Ensuite, elle a un élément politique, la liberté, l'indépendance, la souveraineté, l'autonomie, vous déclinez comme vous voulez. Et en réalité, tout se mêle, voyez ? L'élément religieux n'est que l'un des éléments. Alors, il est souvent mis en avant, d'abord parce qu'il peut être l'élément déclencheur, ça a été le cas dans les Cévennes. Encore qu'il y ait aussi un aspect liberté dans les Cévennes, qui ne soit pas que religieuse. Après tout, les Cévennes étaient un pays administrativement partagé entre 6 généralités. Et la seule unité cévenole, c'était l'administration synodale. Alors évidemment, elle était religieuse. Oui. Donc, et tout se mêlait un petit peu. En Vendée, le religieux se mêle de politique, mais se mêle de beaucoup d'autres choses. C'est aussi la question des campagnes au printemps. En Vendée, premièrement, c'est les récoltes. On ne va pas aller faire la guerre pour la République. Il y a la question de la monarchie, purement politique. Il y a la question, plus curieuse en Vendée, très étrange pour eux, Vendéens, d'aller faire la guerre en Lorraine contre des Prussiens. Mais enfin, monsieur, mettez-vous à la place d'un Vendéen. Qui est l'ennemi du Vendéen? Il n'a que 2 ennemis dans l'histoire. Premièrement, son voisin. Donc, il est breton, Poitevin, Saint-Onger. Deuxièmement, l'anglais. Mais le Prussien, les Vendéens ne savent même pas où c'est la Prusse. Alors, aller se battre contre le roi de Prusse? Mais quelle idée! Quelle idée saugrenue! Oui, alors, tout ça se mêle. Et nous, on retient l'élément religieux. C'est finalement nous qui le valorisons dans notre lecture. Même s'il est un support identificateur chez eux. Aujourd'hui, moi, je vais prendre pour le conflit afghan. Je dirais exactement la même chose. Moi, pour moi, vraiment, le conflit afghan est plus politique que religieux. Mais la manière dont on l'a traité fait qu'on a toujours mis les talibans au premier rang et l'élément religieux. Et qu'on ne cesse de les traiter d'ayatollah parce qu'on n'a pas d'autre vocabulaire. Mais en réalité, l'Afghanistan, c'est un pays qui, depuis des temps immémoriaux, qui remonte au-delà de ma mémoire, est un pays de tribus qui vivent en autonomie relative les unes par rapport aux autres, avec une administration spécifique d'une tribu, et souvent une langue d'ailleurs, d'une tribu par rapport à l'autre. Et nous, on arrive avec les droits de l'homme, avec l'ONU, avec un droit de vote et des billets de vote, et ça colle pas, vous comprenez? Alors on les traite de talibans. Facile comme accusation. Alors, je ne vais pas dire c'est des nationalistes, s'il n'y a pas de nation afghane. Je ne vais pas dire c'est des indépendantistes. Il y a un pays qui s'appelle l'Afghanistan. Alors, je n'ai pas de mots politiques. Vous comprenez? C'est pourquoi l'élément religieux ne me semble qu'un élément parmi d'autres. Et c'est peut-être nous qui le valorisons dans le comportement que nous avons contre eux. Ça nous est commode. D'autant plus que, alors là, on va rejoindre, c'est aussi un élément de réponse pour vous, là, monsieur, mais en plus, si vous voulez, d'autant plus que nous, dans notre discours, en gros, je vais dire depuis la Révolution française, plutôt depuis le début du XXe siècle, on a établi que le religieux, c'est l'ennemi. Vous comprenez? On a séparé le religieux de tout le reste, du politique, c'est la sphère privée. On ne veut pas la connaître. Alors que dès que quelqu'un dit qu'il est croyant, maintenant, déjà, il est suspect. Vous comprenez? Alors qu'en plus, on a qui lisent le Coran, tant mieux, ceux-là, on les tient. Alors, c'est nous qui valorisons cet élément, à mon avis, plus qu'il ne l'est en réalité. Je crois surtout qu'il y a des traditions de culture dans lesquelles rentre le religieux, mais dans lesquelles rentrent aussi les rapports entre hommes et femmes, dans lesquelles rentre la vision de la mort, dans lesquelles rentre la conception qu'on a du groupe familial ou tribal, ou je ne sais pas comment dire, parce que je ne les connais pas de l'intérieur en plus. Vous comprenez? Donc, ça me paraît plus large. Et l'élément religieux, peut-être, alors comme dans toute révolte, il y a un élément qui allume la révolte. Il y a une occasion, une circonstance. L'événement en histoire, il est large, mais ponctuellement, il est vécu sur un tout petit détail, qui peut être un gros détail. Et ça, pour les Cévennes, c'est le fait religieux. Pour la Vendée, moi, je crois plus au fait politique, pour la Vendée, qui, naturellement, se définit comme catholique et royal. C'est commode pour la République, Comme ça, les ennemis sont bien identifiés. C'est le point de départ. De toute façon, c'est leur discours continu parce que c'est le point de départ. Mais qui recouvre les autres. Ne l'oubliez pas, parce que la liberté de culte chez eux, c'est aussi la liberté de leur organisation synodale, qui ne dépend pas de l'autorité royale. Vous comprenez? Alors, en réalité, pour assimiler, pour faire des Cévenols des sujets fidèles du roi Louis XIV, c'est pas les empêcher de célébrer leur culte qu'il faut, c'est les obliger à payer l'impôt. Mais les deux vont ensemble. Voilà, comme toujours, les deux vont ensemble.
D'autres questions? Oui. Madame.
Comment passez-vous du résisté protestant de la Tour de Constance au résistant de la Seconde Guerre mondiale?
Moi, je n'y passe pas, madame. Les mots sont les mêmes, de même que le mot partisan qui est employé. Moi, je n'y passe pas parce que le résistant à la Seconde Guerre mondiale, il a une toute autre histoire, vous comprenez? Il a d'abord une sorte de réaction nationale, c'est le choc de la défaite. Il a le passé des rapports franco-allemands. Les Cévenols, ils n'ont pas passé des rapports franco-cévenolo-Louis XIV, si vous voulez. Il a le poids de la Première Guerre mondiale, l'image qu'on a eue des Allemands et le choc de la défaite. Il a en même temps une sorte de vision très curieuse de résistant. Elle est double. Premièrement, il est français. C'est de la résistance française. Vous pensez à Jean Moulin. Mais en même temps, il veut la liberté. Et la liberté, elle n'a pas de nation. Elle n'a pas de frontières. Et vous savez que des résistances, il n'y en a pas eu qu'en France. On ne parle pas assez, moi, je trouve, dans nos livres d'histoire, des autres résistances. La russe, la polonaise. Je ne veux pas vous faire frémir, madame, la résistance allemande. Les frères, le frère et la sœur Scholl, Geschwister Scholl, j'ai oublié son prénom. Vous voyez, ce sont des résistants authentiques. Ils ne se battent pas pour la nation française, ils se battent pour la liberté, comme une valeur absolue, qui est au-dessus de la valeur patrie. Vous voyez, et qui a donné cette coloration internationale, finalement, à tout le discours politique et institutionnel de l'après-guerre. Vous voyez. Alors, ce n'est pas du tout le langage du résistant Cévenol. Hein. C'est parce que lui, pour le coup, c'est ce que vous dites, lui, ce qu'il veut, c'est d'abord la liberté de célébrer son culte. C'est ça, lui. Mais il ne parle pas, le Cévenol, encore que ça a été fait un petit peu, hein. Il ne parle pas d'une liberté des cultes qui couvrirait toute l'Europe. Ça ne lui vient pas à l'esprit. Ce serait anachronique, vous comprenez ? Alors, il y a un tel écart entre les deux situations que je ne peux pas passer de l'une à l'autre. En revanche, là où on peut y passer quand même, il faut que je vous donne raison. Hein. Sinon, on ne répond pas bien à la question. Vous savez, quand il faut toujours dire que c'est une bonne question et vous avez raison de l'avoir posée. Hein. Alors, je vais vous le dire. Hein. On les retrouve sur les moyens de la guerre. Parce que le moyen du résistant, chez nous, pour le coup, c'est les moyens classiques de la petite guerre. C'est l'attentat, c'est l'embuscade, c'est l'information. Hein, tous ces réseaux de résistance qui ont espionné de manière invisible les Allemands. Vous savez, quand on a débarqué en Normandie, on savait où était chaque pommier. Hein. On avait la carte complète des herbes et des vaches, et puis aussi des Allemands. Bon, on l'avait pour d'autres endroits. Enfin, mais bon, l'information. Oui. Et puis, tous les attentats, avec le problème de la réaction contre les attentats. À Nantes, on sait très bien, c'est, vous voyez, le problème compliqué de la résistance, qui, à vrai dire, pouvait être posé dans des termes pas comparables, mais peut-être comparables quand même, dans d'autres époques historiques. Lorsque à Nantes, je parle de Nantes parce que c'est mon pays, en 1941 a été assassiné le gouverneur militaire allemand de la ville, Hotz, hein, qui était francophile, qui parlait bien français, qui avait travaillé 10 ans à Nantes avant la guerre. Il travaillait aux travaux du canal de l'Erdre. Hein, il était ingénieur, puis remis à l'armée à cause de la guerre, colonel, tac, il gouvernait Nantes. Et on l'avait mis à Nantes parce qu'il était francophile, parce qu'il connaissait Nantes, parce qu'il aimait bien les gens chez lesquels il était. Il est abattu. Bon, réaction de la Gestapo, vous savez, les 50 otages fusillés impitoyablement. Hein. Bon, l'action de la résistance, c'est l'attentat. C'est, bon, ils auraient pu l'enlever, ils l'ont abattu. S'ils l'avaient enlevé, ça, c'était pareil, hein, il aurait mal fini quand même. Mais, bon, les actions sont les mêmes, ou alors c'est le train qui déraille, ou vous voyez, ça, les pratiques de la petite guerre sont les mêmes. Oui, avec peut-être une différence dans le cas Cévenol, mais pas dans le cas espagnol, que les Cévenols, ils n'ont pas derrière eux une armée. Hein. Les révoltés Cévenols, ils ne travaillent pas avec un appui extérieur. Ils auraient aimé avoir une alliance extérieure. Ils espéraient que les pays protestants s'engageraient. Ils ne l'ont pas fait dans ce cadre-là. Hein. Mais les résistants, eux, il y a les Anglais, il y a les Américains. Il y a quand même aussi les Français libres. Il ne faut pas les oublier. Hein. Bon, donc, il y a une armée derrière. Hein. Et ils préparent le terrain pour une armée qui va venir. Jamais les Cévenols n'ont eu à faire cela. Hein. Donc, il y a quand même quelques différences. À la limite, on peut dire qu'elles sont mineures. Là, hein. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Oui.
Bonjour. Tout d'abord, je voudrais juste nous faire une observation d'abord sur votre ouverture. Alors, sans vouloir faire de l'histoire des mentalités, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que vous disiez, vous savez qu'en France, on soutient toujours le petit face au grand. Alors, sans vouloir faire non plus de l'histoire des mentalités, toujours, mais la France, c'est la fille aînée de l'Église, et vous savez, et dans le catholicisme, toujours, on soutenait le petit, le pauvre, qui était le souffrant à l'image du Christ. Alors qu'à la différence, en faire de l'éthique protestante de Weber, chez les protestants, on aimait, l'oisif n'était pas bon. On valorisait la méritocratie, celui qui s'élevait. Et peut-être on va trouver cette différence, peut-être dans certains pays, on soutient la réussite et donc le vainqueur, alors qu'on va soutenir le faible dans un autre. Ça, c'était juste l'observation. Et pour la question, vous disiez donc, c'est vrai qu'à l'époque médiévale ou à l'époque moderne, on avait 3 ordres, ceux qui se battaient notamment avec la noblesse, et puis les civils étaient laissés à part. Et dans la guerre moderne, au contraire, les civils, on voit très bien dans les guerres nouvelles au XXe siècle, avec les 2 guerres mondiales, et puis encore plus maintenant avec ces petites guerres qu'on a actuellement en Irak, en Afghanistan, les civils sont finalement au milieu de cette guerre. Qu'est-ce qu'on fait des civils? Ça, c'est une question véritablement, je pense, fondamentale à se poser dans les guerres modernes.
Je vais répondre à votre première question en vous racontant une histoire, à votre première remarque, en vous racontant une histoire. Mais je n'entre pas dans un débat théologique. Je ne suis ni un fanatique suppôt de l'Église, ni un fanatique suppôt du calvinisme ou quoi que ce soit. Je vous raconte une bataille de grande guerre que j'ai eue un jour avec mon curé, qui, une fois de plus, me disait ce que vous venez de dire. Hein, les pauvres seront sauvés dans le royaume de Dieu. Moi, je dis, mais enfin, non d'une pipe, et les riches, ils n'ont pas droit, eux. Et alors, on s'est battu. Hein. C'est parce que moi, je lui disais, mais enfin, les riches, ils ont le droit aussi d'être croyants, ils ont le droit aussi d'être bons, ils ont le droit d'être justes. Et puis je me défendais, moi, je suis riche, ils ont le droit d'être riches. Et je n'ai pas le sentiment d'être méchant, riche, enfin, comme les improf, hein. C'est quand même mesuré, hein, c'est relatif, disons. Non, mais vous voyez, c'est pour dire, je suis d'accord avec vous, hein. Il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal dans cette espèce de position globale qui est, à mon avis, quand même le poids que porte dans notre culture, hein, l'enseignement catholique de la valorisation du faible contre le fort. Ça, je suis d'accord avec vous. J'entre pas dans le débat religieux qui suit, si vous voulez. Là, d'abord, je ne suis pas armé pour le faire. Hein. Sauf que je me suis battu avec mon curé et que j'ai perdu en plus. Vous savez, formé chez les jésuites, ils sont plus forts que nous. Hein. Bon. Deuxièmement, la question du civil. La distinction entre civil et militaire, elle se fait dans notre société, pour la majorité de la société, en gros, dans le courant du XVIe siècle. Hein. Auparavant, ce qui compte, c'est plutôt l'appartenance à l'ordre, l'ordre naturel dans lequel on est placé par la naissance. Le noble, il est militaire parce qu'il est noble. Il est noble et il est militaire. Il n'a pas choisi d'être l'un ou l'autre. Hein. Et le civil, de toute façon, ne sera jamais militaire. Mais au XVIe siècle, dans la constitution des armées, avec en particulier l'apparition de l'arme à feu, qui remplace les comportements militaires sur le champ de bataille, parce que le noble, il se bat noblement. C'est-à-dire d'homme à homme, à la bataille d'Azincourt, on perd parce que justement, nos chevaliers lourdement armés, ils sont descendus par les flèches des Galloises, et or, ils ne vont pas aller combattre la piétaille galloise. Ça n'est pas digne de leur honneur, c'est qu'ils combattent un cavalier. Pendant ce temps, les Gallois les descendent à coups de flèche. Alors, ils ont mal réfléchi. Mais au XVIe siècle, l'arme à feu arrive, l'infanterie se développe, et pour l'infanterie, on s'est mis à recruter de plus en plus de civils, qui sont bien devenus des hommes de guerre, mais qui sont devenus des militaires. Donc le civil devient, selon les cas, soit un civil qui est civil, soit un civil qui devient militaire. Et du coup, le noble lui-même est un noble qui fera carrière dans ce qu'on appelle la noblesse militaire, distinguée d'une noblesse civile, celle de robe, par exemple. Alors la distinction se fait. Pour le reste, ce qui fait la distinction sur le champ de bataille ou dans les campagnes sévenoles quand on prend une bande, c'est la possession ou non d'une arme. C'est tout. Hein. Si le type qu'on saisit a une arme, alors vous allez me dire, mais monsieur, qu'est-ce que c'est qu'une arme? Ben oui, le couteau de cuisine, c'est une arme aussi. Hein. Alors ça dépend comment on l'interprète. Si on possède une arme, ben on est traité, on est une variété de militaire. Hein. Si on ne possède pas d'arme, on est une variété de civil. C'est simple. Alors, après, les a priori classiques jouent. Le paysan saisit avec une faux. C'est un civil qui se déguise en militaire. Il n'est pas digne de faire le militaire. C'est bon, on peut jongler ensuite. Hein. Mais la distinction se fait. Elle n'est pas très forte. De nos jours, elle est beaucoup plus rigoureuse. Elle est beaucoup plus rigoureuse et elle est encadrée juridiquement de nos jours. Elle est beaucoup plus difficile. Pendant la résistance, c'était un problème aussi. Hein. Est-ce qu'on allait les traiter comme des militaires ou comme des civils, hein, eux entendaient surtout après la guerre être traités comme des militaires. Les Allemands les ont toujours traités comme des civils, hein, qui donc n'avaient pas le droit de se comporter en militaire. C'est une distinction qui, au fond, n'est pas forcément très nette. Vous avez fait votre service militaire? Moi, je l'ai fait. Hein. Moi, je ne suis pas militaire, mais j'ai fait mon service militaire. Quand je le faisais, j'étais militaire. Voilà.
Oui, mais monsieur est trop jeune, peut-être, pour le service militaire n'existait plus.
Ah oui.
Pour...
Voilà. Ah
oui, ça c'est. Je ne vois pas très bien. Excusez-moi, je vois assez mal. Je ne sais pas quel âge vous avez, voilà. Bon, mais je ne vous le demande pas.
Une dernière question peut-être à M. Bois pour conclure, parce que malheureusement, le temps qui nous est imparti avant la lecture des journaux Camisards qui va suivre arrive à son terme. Est-ce que vous avez dans le public une dernière question ? Écoutez, moi je conclurai le débat peut-être en vous posant une question, M. Bois, parce que il y a une mise en abîme dans ce que vous nous dites. Hein. On a l'impression que le temps, finalement, n'apporte pas grande expérience. Hein. On voit que la guerre des Camisards était la guerre du fort contre le faible, et que le faible, bon, même s'il n'a pas gagné, il a mis sérieusement en péril le fort. On voit la guerre du Vietnam, où aussi le faible a mis en péril le fort et a gagné, finalement. Moi, simplement, en termes de stratégie militaire, quels enseignements en tirez ? Vous nous dites nos stratèges sont intelligents. Moi, je veux bien, mais comment expliquer ce manque de faculté d'adaptation, finalement ? On sait à travers les âges qu'il faut s'adapter à l'ennemi, il faut avoir ses propres... sa propre manière de s'adapter à sa manière de combattre. Comment se fait-il que 300 ans après, finalement, aujourd'hui, en Afghanistan, comme vous l'évoquiez, mais on l'a vu au Vietnam avant, on soit toujours avec ce temps de retard, finalement, en dehors de toute considération autre ?
Oui, ça reprend la question précédente d'une manière plus concrète. Je vais vous répondre très concrètement par deux mots, argent et mentalité. Premièrement, les militaires, les nôtres, nos stratèges, ils sont bons, mais ils n'ont plus de fric. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Enfin, bon. Et, je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vous que je le disais, le deuxième porte-avions, on ne l'aura même plus. Hein. Ça, on en est sûr maintenant. Vous comprenez ? Il faut de l'argent. Or, nos mentalités ne sont plus capables de financer la guerre. On le refuse. Imaginez que dans le programme, aux prochaines élections, un candidat brusquement dit « Eh bien, on va en finir. Moi, je rétablis le service militaire. Je fais deux nouveaux porte-avions et on va avoir une armée de 500 000 hommes. On sera imbattable. » Mais alors, vous imaginez qui va dire « Mais oh là là, il est fou, c'est là. Comment va-t-on payer ? Jamais. » Non, les mentalités ne l'acceptent plus.
Mais est-ce que vous pensez que c'est simplement une histoire de moyens ? Parce que regardez, au Vietnam, on a mis un maximum de moyens. On n'a pas gagné non plus. Les Américains n'ont pas gagné.
Alors, écoutez, monsieur, vous me poussez dans mes retranchements, je vais être horrible. Je vous interdis de dire dehors que j'ai dit ce que je vais dire. Hein. Car, et d'ailleurs, si vous le dites, je nierai. Je dirai non, je n'ai jamais dit ça. Hein. Je dis, c'est les mentalités, monsieur. Les moyens de gagner, nous les avons toujours eus. Nous l'avons encore. C'est la bombe atomique. Alors, nous l'avons, hein, et elle fonctionne bien en plus. Les mentalités, je m'en réjouis, là franchement je m'en réjouis, sont telles que nous ne pouvons pas l'utiliser. Heureusement, c'est bien. C'est pas une question d'argent, on l'a, elle. C'est une question de mentalité. Heureusement que les mentalités font blocage. Je prends le cas limite, voyez. Alors, sans aller jusque-là, les moyens de la guerre, mais on sait la faire, hein, la guerre. Simplement, il faut avoir 10 fois plus de drones, 10 fois plus. Peut-être pas de soldats, mais faut de l'argent, faut des outils. On les a pas, c'est tout. On les a pas et on les finance pas. Et on veut pas les financer. De même qu'on veut pas donner l'argent pour utiliser la bombe atomique. Et là, je trouve qu'on a raison. Hein. Là, franchement, oui. Hein. C'est le paradoxe, si vous voulez, de cette situation. Moi, je trouve ça bizarre. C'est comme si j'avais un jouet que j'ai pas le droit d'utiliser. J'aimerais mieux ne pas l'avoir, je vous avoue tout de suite. Hein. J'aimerais mieux qu'il ait pas l'histoire qu'il a en plus. C'est bon, ça. Moi, à personne, madame. Ben, moi, à personne, madame. Mais, madame, n'oubliez pas qu'actuellement, mon pays fait la guerre. Mon pays, c'est aussi le vôtre. Hein. Il fait la guerre. Nos soldats meurent sur des champs de bataille. Ils sont engagés sur 22 terrains. Vous, comme citoyen, ben, votez contre. Mais cependant, vous êtes en République. Hein. Donc après, c'est le président de la République qui décide. Alors, ce sont vos élus.
C'est ma faute. C'est hein, je suis désolé. J'ai posé une question volontairement provocatrice. Mais elle est arrivée en fin de débat, malheureusement.
Heureusement.
Elle aurait dû arriver en début. Écoutez, merci, Monsieur Bois, de votre intervention. Merci à vous de votre présence et vous pouvez rester, bien entendu, pour la lecture des journaux Camisards qui va suivre. Je tiens à remercier la librairie Calvin, naturellement, qui est notre partenaire depuis plusieurs années sur la semaine Cévenol. Merci encore.